Chapitre 10 Le navire du destin. Les hommes d'équipage s'écartèrent pour livrer passage à Kenneth. Il les dépassa et plissa les yeux pour scruter la forme qui gisait à plat ventre sur le pont. L'eau s'écoulait de ses vêtements. Ses cheveux qui dégouttaient masquaient son visage.
« Intéressant ton morceau d'épave, Etta !»
déclara-t-il avec aigreur. « Quel qu'il soit, ou plutôt Kenneth corrigea mentalement, quoi que ce soit, il représentait une complication malvenue dans une situation qui n'était déjà que trop embrouillée. Il n'avait pas de temps à perdre avec ça.
« Tu l'as repêché, tu peux le garder »
annonça-t-il, puis il chancela, bousculé par la conseillère du gouverneur. Kenneth lui lança un regard noir qu'elle ne remarqua pas. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots moururent sur ses lèvres. Qu'est-ce qu'elle avait sur la tête? Althea, qui se pressait derrière elle, réussit à le frôler en passant tout en l'ignorant complètement. Jack s'arrêta devant les matelots avec le gouverneur qui boudait.
« Il respire? Rain est vivant ?»
demanda Malta haletante. Elle se pencha au-dessus de l'homme, mais ne le toucha pas. Althea s'agenouilla à côté d'elle. Avec précaution, elle posa les doigts sur la gorge de l'homme. Après un instant d'immobilité, elle finit par lever un visage souriant vers sa nièce.
« Rain est vivant, Malta !»
Yémin les avait rejointes. Au mot d'Althea, il sursauta, puis adressa à sa sœur un sourire incrédule. Alors quelque chose comme de la jalousie passa sur le visage d'Etta pour se dissiper aussitôt. Elle reporta le regard sur Kenneth. D'une voix presque maussade, elle demanda
« Tu m'as envoyé chercher ?»« En effet. »
Il se rendit compte que l'équipage rassemblé suivait avec attention la conversation. Il adoucit le ton.
« Et tu es venu, comme toujours ?»
Il lui sourit. « Voilà. » Elle et l'équipage en concluraient ce qu'ils voudraient. D'un geste, il désigna l'homme étendu à ses pieds.
« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est le dragon qui l'a lâché, »
expliqua Etta.
« Alors, bien sûr, tu l'as repêché, »
fit-il observer sèchement.
« C'est Vivacia qui l'a demandé, »
expliqua craintivement un des hommes de Sorcor. Le roi Kenneth était-il mécontent de lui ?«
C'est Rain Ruprous, du désert des pluies. « Le fiancé de ma sœur. »
Yémin prononça assez calmement ces paroles étonnantes.
« Ça seul sait comment il a réussi à la retrouver ici. Aidez-moi à le retourner. »
Il prit l'homme par une épaule et le tira. Rain gémit. Ses mains grattèrent faiblement le pont. Althea s'accroupit près de Yémin.
« Attends, laisse-lui le temps de se dégager les poumons, » conseilla-t-elle tandis qu'il se mettait à tousser.
Il éternua, souleva légèrement la tête, puis la laissa retomber.
« Malta !»
fit-il d'une voix étouffée.
Elle eut un hoquet et s'écarta d'un bond. Elle se couvrit le visage de ses mains. « Non !» cria-t-elle, puis elle fit volte-face et se précipita en fendant la foule.
Etta la suivit des yeux consternés.
« Qu'est-ce qui se passe ? »
demanda-t-elle à la cantonade. Avant qu'on ait pu lui répondre, une vigie s'écria.
« Commandant, les navires jaméliens reviennent !»
Ce fut au tour de Kenneth de faire volte-face et de se précipiter.
Il n'aurait pas dû laisser son attention se détourner de ses ennemis, aussi dispersés et mal en point qu'ils aient paru.
Il gagna le gaillard d'avant aussi promptement qu'il put et regarda stupéfié les vaisseaux qui approchaient. Il tentait d'encercler ces trois navires. Était-il fou ? Certains avançaient tant bien que mal, mais il y en avait deux en bon état qui précédaient les autres. Sur les ponts, on pouvait observer un remue-ménage révélateur. Des hommes armaient les machines de guerre. Il les évalua pensivement. Il disposait de la Marietta et du Bouffon pour le seconder, les deux avec un équipage aguerri. Les Jaméliens seraient à tout le moins fatigués et ils avaient probablement épuisé presque toutes leurs munitions. Ils étaient plus nombreux que les pirates, mais la plupart de leurs navires avaient subi d'importants dégâts. Deux étaient en train de sombrer et leurs équipages cherchaient à se sauver dans les canaux. Kenith détenait une monnaie d'échange. Le gouverneur. C'était le moment ou jamais de défier la flottille jamélienne.
Yola, renvoie les hommes à leur poste. Qu'ils se tiennent parés.
Vivacia regardait les navires approcher, mais son esprit était ailleurs.
Comment va l'homme du désert des pluies?
Vivant,
répondit Kenith laconiquement.
C'est le dragon qui l'a apporté. Ici, il me l'a apporté.
Yema a l'air de croire que c'est pour sa sœur,
répondit-il sur un ton acide.
C'est vraisemblable,
dit le navire pensivement.
Ils sont faits pour être ensemble.
C'est aussi vraisemblable que tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelles étaient les chances que ça se soit passé ainsi, Vivacia? Parmi ceux qui nous entourent, le dragon lâche l'amoureux de Malta près du bon navire pour qu'il la retrouve?
Ce n'est pas le fait du hasard. Le dragon cherchait Malta et il l'a trouvée, mais...
La figure de proue promena lentement le regard sur les vaisseaux qui approchaient et dit d'une voix douce
« Quelque chose plane ici, Kenith. Quelque chose de plus puissant que la chance que tu vénères. »
Elle sourit, mais il y avait de la tristesse dans son expression.
« Le destin ne connaît pas d'improbabilité, »
ajouta-t-elle mystérieusement. Il ne trouva rien à répondre. L'idée même l'irritait. Le destin, c'était très bien quand ça signifiait son succès. Mais aujourd'hui, le sort ne semblait pas pencher en sa faveur. Il reconnut le pas d'État derrière lui. Il se retourna.
« Fais monter le gouverneur ici, et Malta. »
Elle ne répondit pas.
« Eh bien ? »
finit-il par demander. Elle avait une expression singulière. Qu'est-ce qu'elle avait aujourd'hui?
Il l'avait ramenée sur le navire. Que voulait-elle de plus?
J'ai quelque chose à te dire. C'est important.
Plus important que notre salut?
Il jeta un regard en arrière vers les navires. Allait-il faire halte et parlementer d'abord ou se contenterait-il d'attaquer? Il valait mieux ne pas courir le risque.
Envoie-moi Yola et Yema aussi.
Ordonna-t-il.
J'y vais.
Elle prit une respiration et ajouta.
Je suis enceinte. Je porte notre enfant.
Puis elle se retourna et s'éloigna. Ses paroles figèrent le temps autour de lui. Il n'était plus sur un pont. Il était encalminé dans un moment. Il y avait tant de chemins qui partaient de là dans toutes les directions. Un bébé, un enfant, la graine d'une famille. Il pouvait être père, comme son père l'avait été. Non, mieux, il pouvait protéger son fils. Son père avait essayé de le protéger, mais il n'avait pas réussi. Kenith pouvait être roi et son fils. Prince. Où il pouvait se débarrasser d'État, l'emmener quelque part, l'y laisser et continuer sans personne qui dépende de lui, sans personne à décevoir. Ses pensées ne tournoyaient pas dans sa tête, elles tressautaient comme des cailloux. Peut-être mentait-elle? Peut-être se trompait-elle? Voulait-il un enfant? Et si c'était une fille?
« Tu l'appellerais quand même Parangon ?»
chuchota méchamment le charme à son poignet, et il rit tout bas.
« Le destin n'hésite plus. Une partie s'est envolée avec le dragon. Il décrète que les seigneurs des trois règnes vont reprendre leur vol. Le reste du destin d'aujourd'hui est tombé sur ta tête ?» Il pèse un peu plus lourd qu'une couronne, non?
Laisse-moi tranquille,
murmura Kenith. Il ne s'adressait pas au charme, mais au passé qu'il avait rejoint et le reprenait. D'autres souvenirs, des souvenirs profondément enterrés, affluaient.
dans le cercle des bras de son père qui appuyait le navire, il tendait ses petites mains pour atteindre la barre de parangon. Il était à cheval sur les épaules de son père. Sa mère levait les yeux vers lui en riant. Une écharpe colorée flottait dans ses cheveux bruns. Il se promenait à partage. Ses souvenirs, vifs et heureux, étaient plus intolérables que toutes les douleurs passées. C'étaient des simulacres, des mensonges, car la tendresse, la sécurité, tout avait été effacé en une nuit noire et sanglante.
Et aujourd'hui, Etta voudrait recommencer tout ça? Était-elle folle? Ignorait-elle ce qui allait advenir? Finalement, bien sûr, il serait obligé de faire du mal à l'enfant. Non parce qu'il le voulait, mais parce que c'était inévitable.
Ce moment marquait la limite d'une oscillation du pendule. Il fallait se balancer jusqu'au bout, de l'autre côté, là où il était Ygrotte et Ygrotte était lui. Alors l'enfant devrait s'approcher pour jouer le rôle qui avait été celui de Kenith.
« Pauvre salaud !»
chuchota le charme horrifié. Mais la pitié ne retient pas le bras du destin. Rien ne pouvait le sauver, lui et l'enfant. Il fallait que les événements suivent leur cours. Rien ne peut interrompre le cycle du temps. Les choses se passeraient comme elles s'étaient toujours passées, comme elles se passeraient toujours.
« Commandant ! »
C'était Yola qui se tenait à son coude.
« Depuis combien de temps ?»
Les rêveries de Kenith s'envolèrent comme du duvet de pissenlit soufflé par un enfant.
À quoi songeait-il? Quand avait-il commencé à pleuvoir?
Maudite soit cette femme! Pourquoi avait-elle choisi de le distraire juste maintenant? Le second déglutit et annonça
« Le navire Jamélien, où est-elle? Où est le gouverneur ?»
demanda-t-il furieux. Il resserra son manteau autour de lui et d'un geste brusque essuya l'eau de sa figure. La pluie était froide. Yola avait l'air effaré.
« Derrière vous, commandant !»
Kenith lui jeta un coup d'œil. Malta, qui avait remis son turban, se tenait à côté du gouverneur. Yémin était près de sa sœur. Quand était-il monté sur le gaillard d'avant? Depuis combien de temps était-il là, abasourdi par les nouvelles d'État?
« Mais bien sûr !»
Il garda sa colère, mais la concentra.
Exactement là où il devrait être. Réponds-leur. Dis-leur que le roi Kenith les somme de bien réfléchir. Précise-leur que je peux rappeler les serpents à tout moment. Puis dis-leur que je n'ai pas l'intention de les anéantir. Je tiens simplement à ce qu'ils prennent un traité légal en considération. Ils peuvent dépêcher un navire avec des représentants. Nous les autoriserons à monter à bord. Ils entendront de la bouche même du gouverneur que mes prétentions sont légitimes.
Yola parut soulagée.
Alors, les serpents ne nous ont pas quittés. Ils vont revenir si vous les rappelez.
S'il y avait eu un serpent à proximité, Kenith lui aurait donné Yola en pâture.
Transmets mon message,
aboya-t-il. Il se retourna pour contempler la flottille menaçante. Il reconnut le genre de flotte dont il s'agissait. Chaque navire appartenait à un noble, qui caressait l'espoir de rentrer chargé de butin, auréolé de gloire. Ce serait à qui négocierait la libération du gouverneur. Aurait-il la bêtise de lui envoyer un otage de chaque navire? Il l'espérait, tout en sachant qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être encore un combat sanglant. Quand Malta s'était enfui, Jack et Althea avaient descendu Rain dans la chambre d'Althea. Il était revenu à lui sur la couchette.
« Où est Malta ? »
s'enquit-il encore dans la brumasse.
« Je ne l'ai pas retrouvée. »
Du sang suintait d'une narine et l'eau s'égouttait de ses cheveux.
« Si, »
répondit Althea.
« Mais le capitaine Kenith l'a appelé. »
Rain plaqua subitement ses mains sur son visage nu.
« M'a-t-elle vu ? »
demanda-t-il horrifié. Pareille question à pareil moment,
exigeait une réponse sincère.
« Oui, elle vous a vu, »
répondit Althea à mi-voix. « À quoi bon mentir ou essayer de le ménager ?» Il était difficile de lire dans ses yeux cuivrés, mais le pli de sa bouche était éloquent.
« Elle est très jeune, Reine, »
reprit Althea pour excuser sa nièce.
« Vous le saviez quand vous avez commencé à la courtiser. »
Elle tâchait de prendre un ton doux mais ferme.
« Vous ne pouvez attendre qu'elle... « Laissez-moi un moment, je vous en prie. »
Jack quitta la chambre en le regardant, les yeux ronds, et Althea la suivit.
« Il y a des vêtements de Yéma sur les patères, » dit-elle par-dessus son épaule. « Si vous voulez vous mettre au sec. »
Encore qu'il ne fallait pas trop compter que ses habits lui aillent. Malgré son visage écailleux et ses yeux, il était bien bâti, grand et musclé. Jack paraissait avoir suivi ses pensées.
« Même avec les écailles, il n'est pas si mal que ça, »
fit-elle observer à mi-voix. Althea s'appuya à la cloison à l'extérieur de la cabine, Jack à côté d'elle.
« Je devrais être dehors sur le gaillard d'avant, »
grommela-t-elle.
« Pourquoi ? Ce n'est pas comme si tu avais la moindre emprise sur la situation. »
repartit Jack de manière exaspérante.
Elle baissa soudain la voix.
« Avoue-le, Althea, quand tu vois les écailles sur sa figure... « Tu t'interroges forcément sur le reste du corps ?»«
Non, pas du tout, »
rétorqua Althea d'une voix glaciale.
Elle ne voulait pas y penser. C'était un habitant du désert des pluies. Il était apparenté aux marchands de Terrilville. Il avait droit à sa loyauté et non à des spéculations oiseuses sur son corps.
Elle avait déjà vu des gens du désert des pluies sans en être choquée. Ils n'étaient pas responsables de ce que le pays faisait d'eux.
La famille Rouprou s'était réputée pour sa fortune et son sens de l'honneur. Squameux ou non, Rain était un bon parti. Qu'il soit venu de si loin pour rechercher sa fiancée et de cette façon, était la marque indéniable d'un cœur courageux. Pourtant, elle ne reprochait pas à Malta de s'être enfuie. Elle s'était probablement imaginé un beau visage sous le voile. Elle avait dû être bouleversée à la vue de son fiancé écailleux.
Rain retira sa chemise mouillée qui atterrit par terre sur la pile de ses autres vêtements. Il respira profondément et se contempla dans le petit miroir, en se forçant à se voir tel que Malta l'avait vu. Tintaglia ne lui avait pas menti. Le contact avec le dragon avait accéléré les changements du désert des pluies. Il effleura les fines squames de dragon, ferma et rouvrit les yeux cuivrés de reptile qui le scrutaient. Les écailles sur sa poitrine luisaient comme du bronze. La peau dessous avait une nuance bleuâtre. Une meurtrissure ou un changement de couleur? Il avait vu des contremaîtres qui, à 50 ans, ne présentaient pas d'aussi remarquables changements. Que deviendrait-il en vieillissant? Des serres de dragon allaient-elles lui pousser? Ses dents allaient-elles s'acérer, sa langue se rider? Peu importait. Il vieillirait seul désormais, sous terre la plupart du temps à creuser pour les dragons. Personne ne se soucierait de son aspect. Tintaglia avait rempli sa part du marché. Il remplirait la sienne. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il avait engagé le reste de sa vie contre l'espoir de secourir Malta. Il ne niait pas qu'il s'était nourri de folles chimères. Il avait rêvé de la sauver, indemne malgré les horribles dangers qu'elle avait affrontés. Il avait rêvé qu'elle se jetterait dans ses bras en promettant de rester toujours à ses côtés. Il avait rêvé que, quand il se dévoilerait devant elle, elle sourirait, caresserait son visage, lui dirait que cela n'avait pas d'importance, que c'était lui qu'elle aimait et non sa figure. Mais la réalité était plus cruelle. Tintaglia l'avait lâché là et était parti avec ses serpents chéris. Après des jours de vols éprouvants, de nuits passées dans le froid sur des plages désertes, il avait failli se noyer. La famille de Malta avait dû venir à son secours. On devait le prendre pour un parfait imbécile. Sa quête n'avait servi à rien, car Malta était déjà en sûreté. Il ignorait pourquoi la Vivacia battait pavillon jamélien, mais à l'évidence...
Altea Vestrit avait réussi à récupérer son navire et à sauver sa nièce. Non seulement elle n'avait pas eu besoin de ses efforts pitoyables, mais il avait fallu qu'elle le sauve, lui. Il prit sur une patère une des chemises de Yémin et l'examina. Avec un soupir, il la raccrocha. Il ramassa sa chemise en regardant l'eau qui en dégouttait. Son voile s'y était emmêlé. Il le considéra un moment, puis le tira pour le dégager et l'essora. Ce fut la première chose qu'il revêtit. Malta se tenait sans rien voir sous la pluie battante. Les fines écailles sur le visage de Reine étaient comme des mailles de soie, l'éclat chaud de ses yeux cuivrés comme un phare. Une fois, elle avait baisé ses lèvres à travers le fin réseau d'un voile. Elle passa ses doigts de fille de peine sur ses lèvres gercées et les retira vivement. Elle leva la tête vers la pluie froide et accueillit avec joie son contact glacé. « Engourdis-moi, » supplia-t-elle. « Enlève-moi cette douleur. »«
J'ai froid, »
pleurnicha le gouverneur à côté d'elle.
« Et j'en ai assez d'être ici. »
Kenith lui décocha un regard menaçant. Le gouverneur avait les bras serrés autour de sa poitrine, mais il tremblait néanmoins de froid.
« Je ne crois pas qu'ils vont venir. Pourquoi faut-il que je reste ici dans le vent et la pluie ?»«
Parce que cela me plaît, »
répondit Kenith hargneux. Yémin pensa à intervenir.
« Prenez mon manteau si vous voulez, »
proposa-t-il. Le gouverneur fit la grimace.
« Il est trempé, à quoi cela m'avancerait-il ? »
« Vous seriez encore plus trempé, »
grogna Kenith.
Malta respira à fond. Le pirate et le gouverneur ne paraissaient pas si différents l'un de l'autre. Si elle savait s'y prendre avec l'un, elle saurait aussi avec l'autre. Ce ne fut pas le courage qui la poussa à traverser le pont et à se camper devant Kenith, les bras croisés. C'était un profond désespoir. Il était dangereux, violent, mais elle n'avait pas peur de lui. Que pouvait-il lui faire ? Détruire sa vie ? Cette idée la fit presque sourire. Ces paroles prononcées à voix basse et égale n'étaient destinées qu'à Kenith, mais la grande femme qui se tenait derrière son épaule les entendit aussi. « S'il vous plaît, roi Kenith, laissez-moi aller lui chercher un manteau plus épais et une chaise si vous ne l'autorisez pas à s'abriter à l'intérieur. »
Elle sentit son regard sur sa tête. Il tentait de discerner sa cicatrice. Il répondit durement.
« Il est ridicule. Un peu de pluie ne lui fera pas de mal. Je ne vois pas en quoi cela vous préoccupe. »
« Vous êtes plus ridicule que lui, monsieur. »
Elle s'exprimait avec audace, sans se soucier de l'offenser.
« Oubliez ma préoccupation. Réfléchissez plutôt à la vôtre. Quel que soit le plaisir que vous prenez à lui rendre la vie dure, cela ne vaut pas ce que vous allez perdre. Si vous voulez que les capitaines de ces navires le considèrent comme précieux, alors vous devriez le traiter comme le grand seigneur Magnadon, gouverneur de Jamelia. Et c'est comme tel que vous devriez le présenter si vous pensez l'échanger contre des richesses, non comme un pauvre gamin trempé et capricieux. »
Elle ne s'y a qu'un instant devant le regard pâle de Kenith pour reporter les yeux sur cette femme. Elle fut surprise de lire sur son visage un léger amusement, presque une approbation. Kenith le sentait-il ? Il regarda Malta mais s'adressa à la femme.
« Etta, vois ce que tu peux faire pour lui. »«
Je veux qu'il reste parfaitement visible. »«
Je peux arranger ça. »
La femme avait un doux contralto, plus raffiné que Malta s'y serait attendu chez la compagne d'un pirate. Il y avait de l'intelligence dans ses yeux. Elle soutint son regard avec franchise et esquissa une révérence en disant
« Je vous suis très reconnaissante, madame. »
Malta suivit Etta et s'accorda à son pas. Le vent avait soulevé un méchant petit clapot et le pont mouillé était instable, mais durant son séjour à bord du Bouffon, elle avait pris le pied marin. Elle s'étonnait elle-même. Malgré tout ce qui allait de travers dans sa vie, elle tirait vanité d'être capable de tenir sur ses pieds à bord du navire de son père.
son père. Elle s'interdit résolument de penser à lui. Elle ne songerait pas non plus à Reine, si proche qu'elle pouvait sentir sa présence. Elle devrait bien finir par se présenter devant lui, abîmée et défigurée, et affronter la déception qu'elle lirait dans ses extraordinaires yeux cuivrés. Elle secoua la tête, serra les dents pour lutter contre les larmes qui lui piquaient les yeux. Pas maintenant. Elle ne devait rien éprouver pour elle-même maintenant. Toutes ses pensées, tous ses efforts devaient tendre vers un seul but, rétablir le gouverneur sur son trône. Elle s'appliqua à réfléchir avec lucidité en suivant Etta dans la chambre de son père. La pièce était telle que dans le souvenir de Malta du temps de son grand-père. Elle regarda le cœur navré et l'ameublement familier. D'un geste large, Etta ouvrit un coffre en cèdre richement sculpté. Il contenait des vêtements aux étoffes somptueuses et éclatantes. À un autre moment, Malta aurait été saisie de curiosité et d'envie. Aujourd'hui, elle restait là, le regard dans le vide, tandis qu'Etta fouillait dans le coffre.
« Voilà, cela fera l'affaire. Ce sera grand pour lui, mais si on l'assoit sur une chaise, ça ne se verra pas. »
Elle retira un épais manteau rouge orné de perles de jais.
« Kenneth le trouve trop voyant, mais je pense quand même qu'il serait très beau dedans. »
« Sans aucun doute, » approuva Malta avec indifférence. Pour sa part, elle estimait que l'habit d'un violeur importait peu quand on savait ce qu'il était.
Etta se redressa avec la riche étoffe drapée sur le bras.
« Le capuchon est doublé de fourrure, »
fit-elle observer, puis elle demanda abruptement.
« À quoi songez-vous ? »
À quoi bon lancer des mots durs à cette femme ? D'après Yémin, Etta savait ce qu'il en était de Kenneth. D'une façon ou d'une autre, elle s'en était accommodée. Qui était-elle pour critiquer la loyauté d'Etta ? Celle-ci devait la trouver tout aussi lâche de servir le gouverneur.
Je me demandais si Kenneth avait bien réfléchi. Je crois que les nobles jaméliens se sont alliés pour faire mourir le gouverneur à Terrilville de façon à pouvoir accuser les marchands du meurtre et piller notre ville. Ces nobles sur les navires, sont-ils fidèles au gouverneur et ont-ils l'intention de le sauver ? Où sont-ils des traîtres qui espèrent achever ce qui a été commencé à Terrilville ? Et aussi, accuser les îles des pirates comme ils ont accusé Terrilville. Ou les deux ?
Elle fronça les sourcils, songeuse.
Ils ont peut-être plus intérêt à pousser Kenneth à tuer le gouverneur qu'à le sauver.
Je suis sûr que Kenneth a pensé à tout,
répondit Etta avec raideur.
Ce n'est pas un homme comme les autres. Il voit loin et, dans les grands dangers, il révèle de grands pouvoirs. Je sais que vous allez douter de ce que je dis, mais vous n'avez qu'à demander à votre frère. Il a vu Kenneth calmer une tempête et commander au serpent de le servir. Yémin lui-même a été guéri de ses blessures de serpent par les mains de Kenneth, oui. Et le tatouage que son propre père lui avait fait appliquer sur la joue a été effacé par son capitaine.
Etta croisa le regard sceptique de Malta sans ciller.
Peut-être qu'un homme comme lui n'a pas à se soumettre aux règles ordinaires,
poursuivit-elle.
Peut-être que sa propre vision le porte à accomplir des choses interdites aux autres.
Malta inclina la tête vers la compagne du pirate.
« Parlons-nous toujours des négociations visant à rétablir le gouverneur sur son trône ? »
interrogea-t-elle.
« Ou cherchez-vous à excuser ce qu'il a fait à mon père ?»«
Et à ma tante, » ajouta-t-elle tacitement.
« La conduite de votre père est plus inexcusable que celle de Kenneth, »
rétorqua froidement Etta.
« Demandez donc à Yémin quel effet ça fait de porter des chaînes et un tatouage d'esclave. » « Votre père n'a eu que ce qu'il méritait. »«
Peut-être n'avons-nous que ce que nous méritons, tous autant que nous sommes. »
riposta sèchement Malta. Elle toisa Etta des pieds à la tête et la vit s'empourprer de colère. Elle éprouva un bref remords en surprenant dans ses yeux une douleur non dissimulée.
« Peut-être en effet, »
reprit la femme avec froideur.
« Apportez cette chaise. »
« C'est une revanche mesquine, » pensa Malta qui eut peine à soulever le siège. Elle le porta maladroitement, se cognant les tibias au barreau épais. Reine Houprous
se tenait à l'écart, près du gaillard d'avant d'où il pouvait observer sans être remarqué. Il regardait Malta. Malgré le voile qui lui brouillait la vue, il la contemplait avidement. Ce qu'il voyait le chagrinait, mais il ne pouvait détacher les yeux de la scène. Elle installait une chaise pour le gouverneur, en lui souriant. Elle se tourna vers la grande femme à côté d'elle et montra avec satisfaction le manteau rouge qu'elle portait. Le gouverneur garda sa physionomie hautaine. Il leva le menton. La suite fut pour Reine comme un coup de poignard. Malta délaça le manteau mouillé en souriant affectueusement. Il ne pouvait distinguer les mots, mais il lut sur son visage une tendre sollicitude. Elle rejeta avec désinvolture le vêtement trempé, puis se hâta d'envelopper le gouverneur dans la grande cape rouge. Elle le coiffa du capuchon et l'ajusta chaudement autour de lui. Avec des gestes légers, elle repoussa les mèches humides du front et des joues du gouverneur. Quand il se fut assis, elle s'affaira avec les plis de la cape, alla même jusqu'à s'agenouiller pour en rectifier le drapé. Il y avait de la tendresse dans tous ses gestes. Il ne pouvait le lui reprocher. Le gouverneur, avec son teint pâle, aristocratique, son maintien altier, était un parti bien plus convenable pour Malta Vestrit qu'un pauvre diable couvert d'écailles du désert des pluies. Avec un serrement de cœur, il se rappela que l'homme avait dansé la première danse avec elle lors du bal de présentation. Son cœur s'était-il mis à battre pour lui dès ce moment-là? Elle se plaça derrière le siège et y posa les mains d'un geste familier. Les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble les avaient certainement liées. Quel homme pouvait résister longtemps à la beauté et au charme de Malta? Sans doute le gouverneur éprouvait-il une grande gratitude à son égard. Il n'aurait pu survivre tout seul. Ray eut l'impression que son cœur avait disparu en laissant dans sa poitrine un trou béant. Il n'était pas étonnant qu'elle ait fui à sa vue. Il déglutit avec peine. Elle n'avait même pas eu un mot de bienvenue pour lui, pas même un salut amical. Craignait-elle qu'il lui rappelle sa promesse? Craignait-elle qu'il l'humilie devant le gouverneur? Il baignait dans la souffrance en les observant. Elle ne serait plus jamais à lui. Althea avait aidé sa nièce à monter le siège lourd sur le gaillard d'avant. Elle trouvait aussi le fait un peu ridicule et exagéré, mais tout cela lui était incompréhensible. Ils étaient tous pris au piège de la grotesque et dangereuse démonstration de force de Kenith. Elle regarda Malta enlever le manteau trempé des épaules du gouverneur et l'envelopper chaudement dans le nouveau. Elle lui avait ajusté son capuchon, comme elle l'aurait fait pour Seldon. Lorsqu'il s'était assis sur son trône de fortune, elle avait même arrangé la cape douillettement autour de ses jambes. Cela lui faisait mal de voir Malta s'humilier ainsi, et pire encore sous les yeux de Kenith qui observait toute la scène avec un petit sourire narquois. Elle fut envahie d'une haine si brûlante qu'elle en voyait rouge. Elle alla même jusqu'à suffoquer et s'enfoncer profondément les ongles dans les paumes. Elle s'adossa au garde-corps et se concentra pour laisser refluer son émotion.
« Tu as envie de le tuer à ce point ?»
déclara le navire à mi-voix. La remarque paraissait lui être adressée à elle seule, mais elle vit Kenith se tourner légèrement à ces mots. Il haussa un sourcil d'un air moqueur et interrogateur.
« Oui, à ce point. »
Il put lire les mots sur ses lèvres. Kenith secoua la tête d'un air chagrin. Puis il reporta son attention sur un petit navire qui approchait à une allure lente mais régulière dans l'obscurité de la fin d'après-midi. Kenith se demanda s'il avait été endommagé lors de l'attaque des serpents. Des hommes en grand apparat étaient alignés sur le pont, les yeux fixés dans leur direction. La plupart semblaient corpulents, sous leurs capes somptueuses. Les matelots se tenaient prêts à aider leurs supérieurs à prendre pied sur le pont de la Vivacia. Un sourire déforma la bouche de Kenith. Ce serait amusant si le vaisseau se mettait à couler alors qu'il était à couple.
« J'aurais peut-être dû m'habiller pour l'occasion, » dit-il à Etta. « C'est tant mieux que nous ayons pavoisé notre gouverneur aussi royalement. L'habit est peut-être la seule chose qu'il soit capable de reconnaître. »
Il croisa les bras et fit un large sourire plein d'espoir.
« Affale les filins, Yola. Voyons un peu quelle prise ils nous apportent. »«
Les voilà !»
Malta ajouta plus bas pour le gouverneur.
« Tenez-vous bien droit, soyez royal. Vous reconnaissez quelqu'un? Croyez-vous qu'ils vous sont restés fidèles ?»
Il examina les nobles d'un air maussade.
« Je reconnais les couleurs du vieux seigneur Kriat. Il était fort enthousiasmé par mon voyage dans le nord, mais il a refusé de m'accompagner parce que la mer ne vaut rien à ses rhumatismes. Pourtant, vous voyez comme il vient vers nous facilement et comme il se fait grand. Il a à peine besoin de l'aide du matelot. Le cinquième homme, celui qui arrive maintenant, porte les couleurs de la maison Ferdio. Mais le seigneur Ferdio est petit et léger. Ce doit être un de ses fils, plus grand et plus gros. Les autres, je ne saurais dire. Ils sont si bien encapuchonnés et coiffés, les cols sont remontés haut, je distingue à peine leur visage.
Malta l'avait soupçonné avant tout le monde. Elle regarda au-delà des hommes qui prenaient le pied sur le pont. À bord de l'autre navire, les matelots aidaient leur chef à traverser. Ils étaient nombreux, la mine patibulaire, l'œil menaçant, tous en mitouflés pour se protéger du froid. Trop nombreux ?
Attention, c'est un piège !
S'écria-t-elle soudain. Son cri les força à agir, plus tôt peut-être qu'il ne l'avait prévu. Quelques hommes vêtus somptueusement restèrent sur l'autre navire, mais, au cri de Malta, tous rejetèrent leurs capes, matelots et faux nobles, dévoilant leurs armes ainsi que l'équipement ordinaire du combattant. Avec un rugissement, les marins qui aidaient leurs compagnons s'élancèrent pour franchir l'espace qui séparait les deux bâtiments. D'autres hommes surgirent des cales, un flot de guerriers qui bondissaient, lames en main. Les hommes de Kenith, par nature toujours méfiants, se précipitèrent au-devant d'eux. En un instant, le pont de la Vivacia ne fut plus qu'une mêlée de combattants et de lames miroitantes. De tous côtés, ce n'était que chaos. Kenith, l'épée à nu, ordonnait en aboyant qu'on coupe les filins et qu'on pousse au large, tandis qu'Eta protégeait ses arrières armés d'une rapière et d'une dague. Même Yémin avait tiré un poignard et se tenait prêt à repousser quiconque essaierait de monter sur le gaillard d'avant. Jack et Althea, les mains nues, étaient venus l'épauler. Tout cela s'était passé en un clin d'œil. Le gouverneur était paralysé d'horreur. Il se ratatinait sur sa chaise, il avait même levé les pieds pour ne pas toucher le pont. Malta se tenait à côté de lui, impuissante.
« Protégez-moi »
criait-il d'une voix perçante.
« Protégez-moi, ils sont venus pour me tuer, je le sais !»
Il lui saisit le poignet et l'étreignit avec une force surprenante. Il se leva d'un bond, trébucha sur la cape trop longue et tira Malta devant lui.
« Défendez-moi, défendez-moi »
suppliait-il. Il la traîna vers l'avant et se recroquevilla là, agrippé à son poignet. Malta se débattait désespérément pour se libérer. Il fallait qu'elle voie ce qui se passait sur le tillac.
« Lâchez-moi !»
implorait-elle, mais il était trop affolé pour l'écouter. Les hommes continuaient à affluer de l'autre navire sur la Vivacia. Il y eut un grand craquement quand Jack, qui avait saisi la chaise du gouverneur, la fracassa sur le pont. Elle s'empara d'un pied et en envoya un autre à Althea. Elle avait un sourire de démente. Elle était folle, cette femme.
« Malta !»
cria-t-elle, et Malta plongea pour attraper un gros barreau que Jack lui lançait.
« Prends ça !»
Puis elle bondit vers l'échelle, frappant sauvagement les hommes qui avaient presque atteint le gaillard d'avant. Althea la rejoignit. Yémin avait pris position près de Kenith, qui hurlait des ordres à ses hommes. Malta rejeta la tête en arrière et regarda affolée autour d'elle. Les autres navires jaméliens se rapprochaient. Elle entrevit la Marietta qui fonçait vers eux. Elle ne voyait pas le bouffon, mais elle doutait qu'il ait fui. Elle aperçut un autre navire qui arrivait rapidement et qui ne battait pas pavillon jamélien. Était-ce un navire pirate qui trouvait par hasard le combat sur sa route? C'est alors qu'elle vit bouger la figure de proue.
« Une vive nef! Un navire de Terrilville à la rescousse !»
Malta hurlait, mais personne ne fit attention à elle. Le gouverneur l'avait saisie à l'épaule et il la secouait frénétiquement.
« Faites-moi descendre, emmenez-moi en lieu sûr, vous devez me protéger.
« Lâchez-moi !»
clama-t-elle désespérément.
« Je ne peux pas vous protéger si vous vous accrochez à moi comme ça !»
Elle s'efforçait de se dégager et parvint à atteindre le barreau que Jack lui avait lancé. Elle le souleva d'une main sans être plus rassurée pour autant.
« On ne sait pas sur quoi on fonce !»
lui cria Ambre d'en bas.
« On sait qu'Altea est sur ce navire !»
brailla Brashen, furieux en descendant du mât.
« On ne peut pas rester ici à ne rien faire pendant que les Jaméliens prennent la Vivacia. Je me méfie autant d'eux que de Kenith. Elle peut être tuée, capturée. Je n'ai aucune envie de voir Altea avec un tatouage d'esclave sur la joue. Alors, essayons de tirer parti de la situation. »
Il sauta sur le pont.
« Semoy, branle-bas de combat !»
Semoy arriva en courant.
« Tout de suite, capitaine. Mais vous devriez dire aux hommes contre qui nous nous battons. »
Brashen eut un grand sourire plein de sauvagerie et de témérité.
« Contre tous ceux qui se mettent entre nous et Altea !»
Subitement, Parangon poussa un beuglement.
« Mais réservez-moi, Kenith !»
La bataille, jusque-là limitée au tillac de la Vivacia, se déplaça brusquement. La poussée des hommes qui se déversaient du navire jamélien changeait l'issue du combat. Horrifiée, Malta vit qu'on faisait tomber Jack. Altea fonça dans la mêlée après elle. Alors qu'elle disparaissait, une vague de guerriers jaméliens déferla par-dessus le plat-bord. Elle entrevit Yéma, Eta et Kenith, en groupe compact, qui se battaient pour leur vie.
« Le voilà !»
rugit un matelot jamélien en bondissant vers elle. Elle brandit son barreau de chaise qui heurta le bras armé, mais l'homme para et le coup dévia. De sa main libre, il lui arracha le barreau aussi facilement que s'il prenait un jouet à un enfant. Il éclata d'un rire tonitruant et l'écarta d'une poussée. Elle perdit l'équilibre, avec le gouverneur toujours accroché à elle, et tomba de tout son long. L'homme saisit Kosgo au collet et le secoua pour lui faire lâcher Malta. Elle essaya de le retenir, mais le marin le mit hors de portée et tira sa rapière pour en frapper Malta. Puis, il regarda incrédule la pointe d'une épée qui lui sortait de la poitrine. Derrière lui, un homme de grande taille rugissait de fureur. D'un mouvement brusque, il se débarrassa de l'épée et de sa victime, lança le mort à ses camarades en retirant la lame du corps.
« Baisse-toi, accroupi !»
ordonna-t-il furieusement en lui tournant le dos. Ses yeux cuivrés flamboyaient derrière le voile déchiré. Elle aperçut sa manche gauche trempée de sang. Alors trois hommes se jetèrent sur lui et il s'écroula juste devant ses yeux.
« Reine, non !»
s'écria-t-elle. Elle voulut bondir en avant, mais le gouverneur s'agrippait par derrière en s'époumonant d'une voix suraiguë. Il se cramponnait à ses épaules comme une patelle, il bégayait, pleurait. Un homme la saisit aux cheveux et l'envoya voler sur le côté. Avec un rire sauvage, il se jeta sur le gouverneur comme un enfant qui coince un chiot.
« Je l'ai !»
rugit-il.
« Je le tiens !»
Malta tourna la tête à temps pour éviter un coup de pied qui dévia sur son crâne et l'étourdit brièvement. Ce n'était pas fait exprès. Maintenant qu'il tenait le gouverneur, elle n'intéressait plus personne. Elle vit qu'on le soulevait comme un sac de blé et l'homme le balança sur son épaule. Il l'emporta en rugissant de triomphe. Les combattants se séparèrent pour le laisser passer et reculèrent derrière lui. Ils avaient ce qu'ils étaient venus chercher et ils s'en allaient. Elle entrevit le visage livide du gouverneur, les yeux et la bouche agrandis de terreur. Elle n'apercevait rien nulle part. Elle se remit péniblement à genoux et regarda autour d'elle, éperdue. On trimballait le gouverneur pour traverser le pont parmi les morts et les blessés qui gémissaient en se tordant. Les pirates qui continuaient à se battre étaient toujours en position défensive, luttant pour leur vie, incapables de voler à son secours. Le gouverneur était exaspérant, c'était un bon à rien, mais elle s'était occupée de lui comme d'un enfant. Elle avait été à ses côtés nuit et jour. Cela lui serrait le cœur de voir qu'on l'emmenait vers la mort.
« Malta !»
criait-il en tendant vers elle sa main libre.
Le gouverneur !
Hurlait-elle en vain.
Ils l'ont pris, sauvez-le, sauvez-le !
Personne ne pouvait répondre à ses appels au secours. Alors que ses ravisseurs l'emportaient, les guerriers jaméliens l'entouraient, hilares, avec des cris de triomphe. Le cœur de la bataille se déplaçait et Malta entrevit Althea. Elle avait pris une épée quelque part. Elle tenta sans succès de se dégager du nœud d'homme dont elle était la cible, mais Jack la tira en arrière.
« Il ne vaut pas ta vie !»
cria la grande femme. Sa queue de cheval blonde dégouttait de sang. Alors, Rain surgit d'un amas de corps sur le pont. Malta poussa un cri de joie aigu en le voyant. Elle l'avait cru mort.
« Rain !»
Il s'empara d'une épée et se précipita en titubant vers les ravisseurs du gouverneur. Elle hurla.
« Non, non, reviens, non, Rain !»
Il n'alla pas loin. Un blessé s'accrocha à lui et il s'affala lourdement sur le pont. Malta se releva en chancelant. Elle ne voyait plus que Rain. Il se débattait aux prises avec l'homme qui l'avait fait tomber. L'autre avait un couteau déjà rougi de sang. Oubliant le danger, elle s'élança vers les deux combattants.
Lâche-moi !
Althea essayait d'échapper à l'étreinte de Jack, mais son ami était inflexible.
Non, laisse-le, ils l'ont emmené. Tu vas aller te battre là-bas sur le pont où tu n'as aucune chance de t'en sortir ? On l'a perdu, Althea, du moins pour le moment.
Althea savait que Jack avait raison. L'homme qui portait le gouverneur avait attrapé un filin qui pendait et s'était balancé sur l'autre pont. Les matelots jaméliens se retiraient, triomphants, coupant les cordages qui reliaient les deux navires durant le combat bref mais acharné. Aussi rapidement qu'ils étaient arrivés, ils s'en allèrent en emportant le gouverneur. Althea vit l'attaque avortée de Rain. Elle crut qu'il allait se relever, mais avant qu'il puisse se remettre sur pied, un sauveur inattendu se porta au secours du gouverneur. Avec un cri sauvage, Kenith bondit entre Eta et Yémin et se jeta dans la mêlée.
« Arrêtez-les !»
rugit-il furieux. Il avait une dague dans une main et sa béquille sous l'autre bras. Elle ne s'attendait pas qu'il fasse plus de quelques pas, mais il se fraya un passage sur le pont, sautant d'un pied sur sa béquille avec une grâce qui l'étonna.
« À moi !»
hurlait Kenith en courant. Les pirates fidèles se groupèrent derrière lui. Eta et Yémin s'élancèrent à sa suite, mais d'autres avaient déjà comblé la brèche. Ils étaient coupés de lui. Il ne s'arrêta pas en atteignant la lisse. Son pilon heurta le pont, son pied le garde-corps, et il se jeta en avant. Avec un saut qui aurait fait honte à un tigre, il bondit sur le navire qui déhalait. Althea crut qu'il allait tomber entre les deux bâtiments, mais il atteignit l'autre pont et il roula sur lui-même. Quelques hommes à peine le suivirent. L'un d'eux manqua son saut et hurla en plongeant dans l'eau. Ensuite, elle ne put voir ce qu'il advint de Kenith. Ils étaient trop nombreux à converger vers le roi pirate et ses hommes. Eta poussa un cri de rage et prit son élan. Yémin l'empoigna pour l'empêcher de se jeter à la suite de Kenith. L'intervalle entre les navires s'était élargi jusqu'à rendre le saut impossible. Des rires moqueurs, des cris de triomphe s'élevèrent, cinglants, de l'autre vaisseau qui débordait peu à peu de la Vivacia. Deux hommes soulevaient en l'air le gouverneur livide et le secouaient pour narguer l'équipage de Vivacia. Eta se libéra d'une poussée violente de l'étreinte de Yémin. Dans son désespoir et sa colère, elle se retourna contre lui.
« Espèce d'imbécile, on ne peut pas les laisser faire. Ils vont le tuer, tu le sais bien. » « Je n'ai pas l'intention de le leur laisser, mais si vous vous noyez maintenant, cela ne le sauvera pas !»
rétorqua-t-il furieux. D'une voix plus grave, il ordonna.
« Iola, ils ont pris Kenith ! Vivacia, sus donc ! Ils ont pris Kenith ! Vivacia, sus donc ! Ils ont pris Kenith ! Il faut les poursuivre !»
Vivacia reprit le cri.
« Dérapez ! Toute voile dehors ! Il faut les poursuivre ! Ils ont pris Kenith !
« Non !» gémit Althea tout bas.
« Laisse-le partir, qu'il le garde !»
Mais elle savait que le navire n'en ferait rien. Elle sentait les pulsations d'angoisse de Vivacia qui battaient à travers le bois. Le navire l'aimait, voulait qu'il revienne coûte que coûte. Althea regarda la flottille jamélienne qui se déployait devant eux.
Si Vivacia les bravait, elle n'avait aucune chance, même avec la Marietta et le bouffon en renfort. Ce ne serait pas rapide, ce serait sanglant, avec un surcroît de morts sur le pont de Vivacia, et pour finir, son navire tomberait aux mains des Jaméliens. La cause était déjà perdue. Mais elle savait que le navire irait jusqu'au bout. Elle serait entraînée avec lui vers une mort violente. Alors, éclatant sur la mer, une voix lui parvint et lui fit dresser les cheveux sur la nuque.
« Ohé, la Vivacia, qui a pris Kénith ?»
Elle se retourna lentement, saisie d'un frisson glacé. C'était une voix qui venait de l'au-delà. La voix de Parangon portait au-dessus de la mer comme aucune voix humaine ne l'aurait pu. Elle le regarda, puis regarda encore. Ce n'était pas Parangon. La vive nef endommagée avec son gréement de fortune portait le nom de Parangon sur sa plaque. Mais la figure de proue était un jeune homme à la physionomie ouverte, imberbe, les cheveux noués en queue de cheval de guerrier. Alors elle entrevit une femme dorée sur le pont, juste derrière la figure de proue, qui agitait follement les bras pour les saluer. Les pensées, les peurs d'Althea restèrent en suspens alors qu'elle les observait approcher. Elle ne pouvait pas voir Brashen. Elle n'avait aucun moyen de savoir s'il était en vie, lui aussi. Mais elle en eut soudain la certitude. Les yeux de Parangon étaient fermés et il avançait les mains tendues devant lui en aveugle. Son cœur se serra. C'était ce qu'ils avaient craint. Ambre lui avait sculpté un nouveau visage, mais ne lui avait pas rendu la vue. Un serpent blanc fendit l'eau devant sa proue.
« Ils sont vivants !»
Jack avait surgi subitement à côté d'elle qui sautait et lui tapait sur le dos de son poing sanglant. C'était déconcertant et merveilleux de se sentir soulevé de terre par Jack qui la faisait tourbillonner en poussant des hurlements de joie.
« Oh, Parangon !»
cria Vivacia au désespoir.
« Là-bas, ce navire, il est à bord de ce navire. Ils vont le tuer, Parangon, ils vont le tuer !»
Elle gesticulait et montrait vainement la mer. On dérapait tout juste l'ancre. Son cri portait jusqu'à la Marietta et au bouffon. Althea les vit se dérouter pour poursuivre le navire jamélien qui filait se mettre à l'abri de la flottille. Mais Parangon avait déjà de l'avance, poussé par la volonté d'une vive nef autant que par le vent dans ses voiles. Il prit une vitesse surnaturelle. Même l'équipage de la Vivacia, familier des vives nefs, lâchait des exclamations d'étonnement en le voyant doubler. Althea aperçut Brashen qui courait sur le pont avec Cliff sur ses talons. À sa vue, elle sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Alors Parangon les avait dépassés à toute allure et montrait sa poupe à Vivacia. Elle resta là, les yeux fixes, éperdue de joie. L'équipage harcelé de la Vivacia avait bondi aux nouvelles de l'enlèvement de leur capitaine. Tous les hommes valides s'étaient précipités pour déraper l'ancre et hisser les voiles. Pour le moment, ils étaient indifférents au corps qui jonchait le pont. Les blessés qui le pouvaient s'étaient relevés en chancelant pour aider à la manœuvre. Malta, indemne mais visiblement secouée, errait hébété parmi les victimes entassées. Yéma avait repris le commandement des mains de Yola complètement démontée. Eta semblait être partout à la fois, donnant un coup de main et criant pour activer les manœuvres.
« Althea !»
s'écria Jack qui sortit son ami de sa transe.
« Bouge-toi !»
Jack avait déjà rejoint les hommes à l'ancre.
« Après lui !»
Althea joignit ses cris à ceux de Yéma.
« Parangon ne doit pas les affronter seul !»
Avant même que l'ancre soit complètement virée, Vivacia gagnait déjà de la vitesse.